Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour à toutes et à tous. C'est avec une grande joie que je vous accueille dans cette médiathèque José Cabanis en compagnie de Mohamed Bounkarsar pour parler de son roman prodigieux. Moi, j'ai un certain nombre d'adjectifs pour parler de ce roman, de ce livre prix Goncourt 2021. Splendide, foisonnant. Je racontais à l'auteur, je suis désolée, je fais une petite digression, à quel point en commençant la lecture du livre, en fait, je me suis arrêtée parce que je ne voulais pas que le livre s'arrête, en fait. Je me suis dit, ce livre, il va me tenir, et si je continue, ça va se terminer. Je ne voulais pas, en fait, que cette expérience de lecture s'achève. Merci beaucoup d'être en notre compagnie, Mohamed. Vous avez 32 ans, vous êtes né au Sénégal, vous vivez en France, vous êtes auteur de trois romans. La plus secrète mémoire des hommes, publiée aux éditions Philippe Ray et Jim San, et votre quatrième roman, couronné donc du Goncourt. Il figurait aussi sur les premières listes du Renaudot, du Fémina, du Grand Prix du roman de l'Académie française et du Médicis. Aujourd'hui, on va parler de ce livre, mais on va aussi parler des œuvres qui vous nourrissent, qui ont nourri cette œuvre. Et pour ça, on va entendre les mots avec donc Yann Gaël, qui est comédien et qui va nous rejoindre tout à l'heure pour parler de deux auteurs en particulier. Quelques mots sur ce livre. Cette fresque qui raconte la quête d'un jeune auteur, un auteur d'aujourd'hui, Diégane, ébloui après la lecture d'un roman publié en 1938, Le labyrinthe de l'inhumain, écrit par un auteur qui s'appelle T.C. Eliman. Et donc ce jeune Diégane va partir sur les traces de cet auteur, essayer de retrouver son époque, de retrouver ses mots, retrouver ses intentions, sa vie en fait. Et vous nous amenez, nous sommes à Paris, vous nous amenez à Dakar, à Amsterdam, à Buenos Aires, avec un fil conducteur. Qu'est-ce que la littérature? Qu'est-ce qu'écrire? Pourquoi écrire? Quel est le pouvoir de la littérature? Et donc le Goncourt, j'ai une question générale cette année particulière. Comment est-ce que vous l'avez vécu avec ce prix, tout ce qui s'en est suivi, des rencontres comme celle-ci, la rencontre avec le public, ce regard posé sur vous? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots pour commencer déjà?
Oui, bonjour, bonjour Sandrine, merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Alors, comment je l'ai vécu? C'est une question très étrange parce que ça fait déjà quelques mois maintenant et j'ai l'impression que c'est passé à toute vitesse, mais je ne peux pas mentir, il faut bien dire qu'à certains moments, ça passe très lentement parce que vous avez l'impression d'être extrêmement fatigué. En fait, c'est vraiment une succession de grands moments d'exaltation, de joie pure, presque étouffante, et puis de moments de fatigue. Mais les moments de fatigue sont toujours payés, disons, par les rencontres qu'on fait. Celles qui suivent le prix, ces moments-là sont payés par ces rencontres, ils sont aussi amoindri par l'extraordinaire énergie qu'on reçoit, qui vous vient des lecteurs, mais qui vous vient aussi de vos proches, de vos amis, qui vous rappellent quand vous avez la tentation d'être blasé soudain, qui vous remettent comme ça debout en disant « N'oublie pas tout de même ce qui est en train de se passer, qui est très beau, qui est unique, qui t'arrive dans une année... voilà, qui restera inoubliable de toutes les manières. Mais je suis très touché par le destin de ce livre, par ce qu'il produit chez les lecteurs, par ce que ces lecteurs-là me disent aussi, des multiples vies qu'il a chez chacun. Mais au fond, c'est aussi quasiment l'écriture du livre qui continue. C'est un livre très, très ouvert. C'est un livre... qui demande sans cesse à continuer à raconter quelque chose. Il aurait pu se poursuivre très longtemps, mais il se poursuit là vraiment dans la lecture, dans une énergie qui est celle qu'il a irriguée du début à la fin, c'est-à-dire quelque chose de très joyeux, d'un peu chaotique, mais de très joyeux fondamentalement. Et ça me touche beaucoup. Je crois que il faudra encore quelques temps avant, au moment où je serai vraiment totalement redescendu sur terre, reposé, pour peut-être revenir sur ces moments-là. Pour l'heure, je suis encore dans une sorte ça s'appelle le marathon. Enfin, ça tombe vraiment bien, comme on est vraiment dans ce... Et là, je suis, vous savez, le marathon, on ne sait pas, 42 km, c'est 42 km, 195. Et donc là, je suis au 195, puisqu'après ce festival, c'est fini pour jusqu'en septembre. Donc j'ai 2 mois après. Donc là,
vacances,
j'ai l'impression
de
d'arriver.
Coupure,
voilà, c'est ça.
Et peut-être de lecture, parce qu'est-ce qu'on a le temps de lire l'année où on a le concours ?
Il faut lutter pour. Je lutte de plus en plus. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment le seul aspect que je regretterai profondément, c'est que je n'ai plus le temps de lire. Bon, écrire, personne n'y pense, donc. Parce que bon, j'anticipe cette question parce que ça peut arriver. Quelle est la suite ? Il n'y a pas de suite pour l'heure parce que je ne.
C'était ma dernière question.
Voilà, je vous épargne déjà ces mots-là. Je n'écris pas, mais au moins je pouvais lire. Et là, même lire devient très difficile parce que le temps et on commence dans les trains et puis on finit par sur l'épaule de son voisin ou de sa voisine. À baver avec un filet de bave. Et puis, là, c'est le Goncourt qui bave sur mon épaule. C'est assez triste à voir. Quand même.
Mais d'autant que ce livre, vous le portez depuis longtemps, il vient de loin. Les premières lignes, donc le premier chemin de rédaction, c'est quelle année, c'est quel moment ? Est-ce que vous vous souvenez de ces moments-là ?
Oui. J'ai commencé à l'écrire en 2018, pour être tout à fait factuel. Mais le temps d'écriture des livres, on le sait, est toujours beaucoup plus vieux, beaucoup plus profond et âgé que le temps de... C'est-à-dire le fait de porter un livre est déjà une manière de commencer à l'écrire. Donc ça fait peut-être une dizaine d'années que j'ai réfléchi à ce livre, mais j'ai commencé à l'écrire en 2018. Factuellement, c'est en 2018. Et donc je fais partie de ceux que le confinement et la pandémie a un tout petit peu obligé à se mettre au travail. Il y a un certain nombre de catégories comme ça, sociales, qui font partie des opportunistes de la pandémie. En tout cas, ceux qui en ont profité pour faire des... Donc pour moi, c'était vraiment ça. 2018, 2019, 2020, c'est vraiment les années d'écriture du livre. Voilà.
Et dernière question, vous parliez de cette rencontre avec les lecteurs, leur perception, la manière dont ils ont reçu le livre. Vous le nourrissez depuis longtemps. Je veux juste préciser que c'est un livre qui faisait 700 pages quand vous l'avez envoyé à votre éditeur. Vous l'avez retravaillé ensemble. Vous le connaissez par cœur, mais est-ce que vous avez redécouvert des choses ? Est-ce que vous avez découvert d'autres clés de lecture aussi, au travers de ces échanges aussi, de ces rencontres avec le public ?
Oui, bien sûr. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus étonnant parce que... Mais évidemment, c'est aussi ça que je cherche. En tout cas, c'est une conception de la lecture que j'ai dans laquelle un lecteur a pleinement sa place dans l'élaboration même du sens d'un roman ou de son interprétation. Donc il y en a forcément plusieurs. Il faut que le livre soit assez ouvert pour que chacun puisse y avoir une place et lire. Mais surtout, j'exige beaucoup des lecteurs. J'attends beaucoup des lecteurs. C'est pour ça peut-être que le livre peut avoir certains aspects. Mais c'est parce que j'attends vraiment que les lecteurs s'engagent aussi pleinement dans une lecture. Ce n'est pas un geste passif pour moi, la lecture. On n'est pas simplement en train d'être tenu par la main et amené comme ça vers un sens qui est évident. Le lecteur participe, il est dans le livre, il participe à quelque chose qui s'accomplit dans le livre. Il lit, mais il se lit aussi lui-même, il est en dialogue avec les personnages, les situations, avec l'auteur aussi. J'attends aussi ça des lecteurs. Et depuis le début de cette aventure, les lecteurs répondent présents. Voilà. Qu'ils aiment moins, qu'ils aient eu du mal au début, qu'ils ont mis les dictionnaires, le mot, etc. Bon, ça... Mais ils sont dedans, ils sont dans l'aventure, et ça c'est vraiment ce que je cherchais. Et j'ai l'impression que c'est ça la signification la plus profonde d'un livre, un lieu de rencontre, un lieu où on marche ensemble. Voilà.
550 000 exemplaires vendus, j'amène de manière un peu prosaïque dans cette discussion littéraire les chiffres, en tout cas ça veut dire quelque chose. On m'expliquait, vous m'avez confirmé que c'est une fourchette haute pour un Goncourt. Comment vous le considérez, vous, ce chiffre ? 550 000 paires de mains, de paires d'yeux, de personnalités, de personnes qui ont tenu ce livre, qui l'ont reçu, qui l'ont lu, peut-être pas jusqu'à la fin, mais en tout cas, voilà. En tout cas, 500 000 exemples paires vendues.
Oui, ça, c'est un chiffre qui laisse un peu songeur. C'est vrai que quand après l'extraordinaire succès de l'Anomalie, succès de librairie, le concours de Hervé Le Tellier qui a dépassé le million, on s'était dit, bon, même s'il y a un concours, il va peut-être retomber sur des bases plus... Mais là, il est, oui, sur la fourchette haute, disons, des ventes, des prix Goncourt récents sur les 10 ou 15 dernières années. Et c'est vrai que, bon, moi, je suis toujours étonné. Je me dis, bon, qui oui, oui, bon, je ne sais pas. Mais c'est vraiment quelque chose qui me semble tout à fait irréel. Mais l'idée de savoir que... Mais en même temps, je sais que ça a aussi à voir avec le Goncourt comme marque aussi. C'est qu'on se dit, ce pays tout de même, et on peut dire ce qu'on veut de ce pays sur plusieurs aspects, mais sur la question, sur le plan littéraire, il y a toujours un rendez-vous qui est là avec le Goncourt. Il y a des lecteurs qui ne lisent qu'un livre par an, et c'est le Goncourt. Vraiment, ils l'achètent quasiment les yeux fermés. C'est le rendez-vous littéraire de l'année. Et c'est extraordinaire de se dire qu'il y a un pays où ça devient quasiment une prescription systématique. Et que celui qui l'a se retrouve quasiment au pied de tous les sapins de France à Noël.
C'est, avec un bandeau rouge.
Avec un bandeau rouge qu'on offre. Est-ce qu'il est lu, est-ce qu'il n'est pas lu? Ça, c'est une autre question. Mais au moins, il est là. On sait qu'il est là, il fait partie du décor. Ça fait partie de la famille, quoi. Voilà, donc...
Avant de parler de deux auteurs auxquels vous êtes liés par-delà les années, l'un est né en 1940, évidemment les deux sont décédés, l'autre en 1887, peut-être, puisqu'on parle de réception du livre en France, au Sénégal. Moi, j'avais lu qu'il s'était arraché dans les librairies, que je crois le jour de l'annonce du Goncourt, il y en avait déjà plus. Est-ce que vous avez fait aussi une tournée là-bas? Peut-être un peu nous dire quelques mots sur la réception du livre et le dialogue avec vos lecteurs sénégalais.
Alors, avec le Sénégal, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais pour des raisons qu'on peut comprendre aussi, c'est que je viens de là. Et quand je dis je viens de là, je veux dire que rien n'est facile. Quand vous venez d'un pays et que vous recevez une distinction aussi importante, mais à partir d'un autre pays qui se trouve être l'ancienne puissance coloniale. Dans cette réception, il y a cristallisé toutes les difficultés, toutes les ambiguïtés de la question coloniale aujourd'hui. C'est-à-dire, je veux dire par là que le livre a été très bien reçu au début. Il y a eu tout un vent de joie, de fierté sincère, de réjouissance aussi. Parce qu'au fond, ça continue simplement une histoire culturelle d'un pays qui est minuscule et qui finalement n'existe. En tout cas, à l'échelle de l'histoire, a beaucoup existé à travers ces artistes, ces hommes de culture, ces penseurs. Voilà. Donc, c'est ça qui continuait par cette distinction. Mais immédiatement après, deux ou trois jours après, il y a eu une réaction tout à fait moins positive, plus critique, qui était liée moins à ce livre-là qu'à mon livre précédent, « De purs hommes ». Et puis il y a eu ensuite voilà, tout un ensemble de suspicions qui venaient à la fois de la frange la plus conservatrice, réactionnaire, religieuse du pays, que d'une frange qui était plus intellectuelle et plus suspecte aussi, disant bon, qu'est-ce qu'il a dû faire pour avoir ce prix, qu'est-ce qu'il a, où est-ce qu'il s'est, oui, ouais, il y a eu tout un ensemble, voilà, qu'est-ce qu'il a fait. Parce que ça a forcément un prix. Ce n'est pas possible que comme ça, simplement en écrivant, il l'ait obtenu. Alors que dans notre histoire, il y a tellement de grands écrivains qui ne l'ont pas eu. Donc il y a eu tout un ensemble de choses comme ça. Mais globalement, parce que j'y suis retourné, en effet, je suis retourné en mars dernier, sans savoir à quoi m'attendre. Et finalement, l'accueil a été très beau, très, très, très enthousiaste. J'ai discuté avec beaucoup de... gens, des étudiants, des lycéens, des lecteurs, quoi. Et oui, je pense que c'est cette tendance-là qui est en train de l'emporter. En tout cas, mais bon, c'est intéressant. C'est toujours intéressant pour moi, en tout cas, parce que ça m'oblige toujours à me demander ce que signifie être un écrivain au Sénégal. Pour moi, ça inclut ça. Dans toutes les polémiques, un peu, il faut toujours essayer de garder, quand on est un écrivain, quelle est la part littéraire de la polémique. parce que c'est toujours celle qui est la plus intéressante pour nous. Et la part littéraire de la polémique, c'est que dans un pays comme le Sénégal, avec cette histoire, avec écrire n'est pas un geste non plus innocent ou comme les autres. Il a une portée toujours qu'il faut prendre en compte. Ça ne veut pas dire écrire en fonction de cela, mais ça veut dire écrire en ne l'oubliant pas et en sachant que ça peut très bien produire ça. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire que la littérature peut encore avoir une forme d'effet très concret sur la société.
Et justement, on va en parler avec ces deux auteurs, je disais, qui ont une place particulière dans votre bibliothèque, qui nourrissent votre œuvre. Des auteurs pas très connus du grand public, hein, il faut le dire. On en a reparlé récemment à la faveur de votre Goncourt. On va commencer par Yambo Wologem, à qui vous dédiez ce roman. Il a inspiré le personnage d'Eliman. Yambo Wologem, auteur malien, né en 1940 au Soudan français, donc sous domination coloniale, l'actuel Mali. Prix Renaudot en 1968 pour Le devoir de violence, et son histoire raconte celle que vous racontez dans ce livre, c'est-à-dire la gloire avant la chute. Il a été accusé de plagiat, on lui a retiré son prix, on a retiré des rayons son livre qui a disparu, et puis il est retourné au Mali et a adopté un mode de vie à l'inverse, en rupture totale avec sa vie en France, à Paris en 1968, avec les événements de l'époque. Il est étudiant et ne veut plus entendre parler de littérature. Il meurt au Mali en 2017. On va entendre un extrait du Devoir de violence avec Yann Gaël dans quelques minutes. Je voudrais juste lire une citation de Yambo Wologem à propos des prix. Il avait dit ceci: « Cela ne représente pas grand-chose dans la mesure où je suis persuadé qu'il y a plus de médailles que d'écrivains et que de toute façon, un prix littéraire n'est jamais une consécration, mais d'abord et avant tout, non tant point une récompense, mais un encouragement à être intransigeant vis-à-vis de soi-même. » Voilà, quelques mots peut-être. Voilà, qu'est-ce qu'il faut ajouter ?
Ou rien. Je pense que ça résume tout à fait le type d'écrivain que Wologem était. Mais en même temps, comme c'est un écrivain très joueur, qui avait beaucoup de masques, qui avait une forme d'ironie et de sorte de sourire, de rire comme ça, sourire un peu insinué. On ne sait jamais jusqu'à quel point il croit en ce qu'il dit. Parce qu'il est toujours un peu joueur. C'est que, évidemment, il dit ça et donc tout de suite se dessine l'image d'un écrivain extrêmement intransigeant qui ne jure que par la littérature, ce qu'il était par ailleurs. Mais à côté, c'est tout de même l'écrivain qui est aussi capable d'écrire des livres par pur geste commercial pour gagner de l'argent, des livres vraiment il les a écrits d'ailleurs sous des pseudos. On connaît moins cette histoire-là, mais dans Wologem, qui est aussi beaucoup plus, qui a une vision beaucoup plus mercantile de la littérature, mais c'est aussi ça, Wologem. Il est capable de dire quelque chose d'extrêmement fort, d'avoir une parole très. Et puis, à côté, c'est aussi celui qui écrit des romances en fait, vraiment des romances extrêmement très 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 légère en assumant que ce soit que c'est pour gagner de l'argent. Donc, mais après sur ce qu'il affirme là, je ne peux qu'être d'accord.
Et donc on va entendre Yambo Wologem dans le texte, dans ses mots, avec cette lecture avec Yann Gaël, comédien, du devoir, le devoir de violence.
Deux. L'extase et l'agonie. Comment, pénétré de déplaisir, la bouche parfumée et l'éloquence sur la langue, Saïf Ben Isaac El Hayit tenta de mobiliser contre l'envahisseur les énergies d'un peuple fanatique. Comment il propagea à cet effet, de par l'empire Nakem, la nouvelle de miracles quotidiens. Tremblement de terre, tombeau ouvert, innombrables résurrections de saints, sources de lait jaillies à son passage, Vision d'archange surgit du soleil couchant, saut de bois des villageois remonté du puits plein de sang. Ce qu'il advint lors de ses périples, quand il métamorphosa trois feuillets du livre sacré, le Coran, en autant de colombes, volant au devant de son chemin comme pour réclamer le dévouement des peuples à la cause saïf et la diplomatie dont il usa pour feindre un détachement des biens de ce monde. Voilà qui est on ne peut plus banal. Reste qu'en dépit des arguties et des distinguos les plus subtils, qu'Allah éloigne de lui le mauvais œil, il lui fallut renoncer au surnaturel pour réorganiser un art militaire tombé en désuétude. Dès lors, du Nakem Zyuko, du Gorofoto Zinko, du Yamé, de la Gebwe, du Katsena, des pays du Sao, des Galibi, des Gohou, des Gondaïtes, du Dargol, des Ngondo, sagaies, lances, flèches empoisonnées, javelots, coupe-coupe, poignards, sabres et mousquets, armes de tout genre, toutes trois fois bénies par Saïf ben Isaac el-Heït, furent remises aux guerriers. En même temps, montés sur des mules noires, sorciers, éleveurs de vipères, de boas, mages, criminels, spécialistes des morts ordaliques, herboristes, retors en empoisonnement, en traitement de puits, de mares, assassins connaisseurs de plantes vénéneuses, d'objets dangereux, de bêtes terrifiantes, à qui mieux mirent au service de la patrie et de la religion fétiches, guerriers, serpents, abeilles, guêpes, flèches, éléphants, panthères, chars d'assaut de la résistance Nakem. De l'envahisseur, plus de 100 éclaireurs explosèrent pour en avoir bu un peu de l'eau, des étangs empoisonnés. Maints tirailleurs noirs, épouvantés à ce spectacle, désertèrent l'armée des Blancs, tués par des fléchettes, également empoisonnés, puis leurs fusils, leurs poudres, leurs balles, volés. Leur uniforme endossé servait d'instrument d'espionnage, de sabotage de la colonne, de l'itinéraire de laquelle l'espion, inaperçu, s'informait. Des guerriers bénis par Saïf, tendant son épée sur sa droite et ouvrant un chemin large comme une rue de village, se crurent invulnérables. Leur fureur peinte sur le visage, ils devaient par milliers aller rejoindre de vieilles lunes. Mais, disait-on, ils ne mouraient pas. Ils rejoignaient le Très-Haut. Djalé, Djalé, Amul Pop, Makulfale. Et voilà pourquoi la nuit continue plus blanche que le visage du jour. La longue file des officiers et des tirailleurs traînaille péniblement le long des pistes où se tord l'herbe folle. Chacun s'efforce de paraître calme et plein de sang-froid, mais l'Afrique est là, aux aguets. L'hivernage avait apporté une trêve entre résistants et troupes étrangères, mais dès le début de 1898, celle-ci avait envahi le Grouré et le Nyeké, pays côtiers, peuplés et riches, où la poudre d'or se cache au creux de défenses d'éléphants, de bibelots d'ivoire, de petites cornes d'antilopes serties de cuir rouge. De par toutes les provinces, les résistants noirs razzient des captifs noirs et paient de cette monnaie aux marchands, chevaux, poudre, armes, augmentant ainsi par horde les colonnes incessantes du nombre des esclaves, tandis que, de l'autre côté, les Blancs gagnent du terrain. Tout est pris, saccagé, volé. Et les captifs, au nombre de 8000 environ, sont rassemblés en un troupeau dont le colonel commence la distribution. Il écrivait lui-même sur un calepin, puis y renonçait clamant « Partagez-vous cela ». Et chaque Blanc obtint plus de 10 femmes noires à son choix. Retour au quartier général en étape de 40 km avec les captifs. Enfants, malades ou invalides, tués à coups de crosse et de baïonnette, et leurs cadavres laissés au bord de la route. Une femme est accroupie, elle est enceinte, on la pousse, on la bouscule à coups de genoux, elle accouche debout en marchant, à peine le cordon coupé et jeté d'un coup de pied, hors de la route, l'enfant. L'on avance, sans s'inquiéter de la mère hagarde qui boitille, délire, titube, vagissant, puis tombant, 100 mètres plus loin, écrasé par la foule. Le temps passe. Les tornades, de nouveau, abattent leurs rafales d'eau sur le pays, noyées dans la vase abondante des pistes et des routes. Le fleuve Yamé se gonfle, élargissant son cours, sur les plaines basses. Les nègres réquisitionnés en route pour porter les vivres restent 5 jours entiers sans ration, reçoivent 40 coups de cravage s'ils prélèvent une poignée des 10 à 25 kilos de vivres qu'ils portent sur leur tête nue, rasée. Les tireurs, le commun des soldats, les sous-officiers et les officiers ont chacun tant d'esclaves qu'il leur est impossible de les compter, les loger ou les nourrir. Arrivés à Gagol Gosso, qui capitula, ils ont demandé pour eux de la nourriture et des cases. Le chef a répondu « Vendez-les. » On les vendit. Ce dont nul ne voulait furent pour économiser les cartouches noyées. Et la marche continua, peuplée du cauchemar de villes et de villages qui résistaient, attaquaient la nuit l'arrière des colonnes, lâchaient sur elles des centaines de nids d'abeilles, des déluges de flèches empoisonnées ou enflammées, encerclant l'ennemi dans l'étau des incendies. Mais tout ceci n'était qu'à amas de banalité, n'empêchant guère les Blancs de se ressaisir et de pousser plus en avant leurs tirailleurs nègres, troupes de choc, et de casser le village mis à sac par les soldats. Au cours de ces razzias, villages brûlés, champs et récoltes saccagées, esclaves vendus, innombrables métis mis au monde et abandonnés si tôt que nés, vinrent s'ajouter à la liste des exactions, dont la non moins surprenante est celle-ci. On a donné ou vendu des parents de tirailleurs noirs, gens dévoués à la cause des Blancs. Pour réparer ces bévues, d'innombrables laissez-passer furent signés aux intéressés. Laissez-passer Moussa allant à Granta avec un homme et une petite fille non libre pour racheter un parent de notable à Gagol Gosso. Laissez-passer Ali se rendant à Zemba pour y chercher un captif nommé Nyamba Kimane, donné à Amala, auxiliaire de la compagnie de Bornis Desbordes, ayant pris part à l'assaut de la ville de Bouangafele. Pourtant, à de très lointains intervalles, une caravane traverse l'étendue infinie et morne de ces plaines, caravane de négriers, le plus souvent poussant devant eux de lamentables théories d'hommes, de femmes, d'enfants couverts d'ulcères, étranglés par le carcan, mais mains ensanglantées par les liens. En vol serré, corbeaux, charognards, vautours chauves aux longs cous pelés la suivent, certains qu'à chacune de ces étapes, ils auront, pour se repaître, les cadavres de ceux ou de celles qui, affaiblis par leurs blessures ou les entrailles ravagées par la famine, succomberont, et ceux aussi qu'on abandonnera vivants sur la route, parce que leurs pieds, rongés jusqu'aux os par les plaies et la fatigue, refuseront de les porter. Dans tout le haut Rendé, ainsi que dans le Yamé, au nord et au sud du grand fleuve, de Kroti Bentia à Dangabiara, il n'y a ni route ni sentier qui ne soit jalonné de nombreuses étapes pareilles, gîtes de morts et de crimes, dépôts résiduels du seul commerce qui fleurisse en ces contrées sous la protection de l'homme blanc. De l'avis de tous les gens de bonne foi qui ont vu ces pays et qui y vécurent, une caravane d'esclaves dit de guerre, qu'elle soit dirigée par les indigènes ou pas, laisse sur sa route le tiers environ de sa cargaison de chair humaine avant d'arriver soit au marché où se fera la vente, soit au poste où aura lieu la distribution. Quant aux villages amis, ils doivent seulement supporter les réquisitions des provisions et des bêtes de somme, la rafle des hommes valides comme porteurs, souvent abandonnés plus tard, sans ressources, à des centaines de kilomètres de là. Donc, gloire à jamais et louange multiple au rétributeur, maître de la joie, de l'intelligence et du bonheur. Amen. L'année suivante, ce fut un très long siège devant la forteresse de Saïd ben Isaac el-Hayt, lequel, dans une très sombre nuit d'août 1900, abandonne son palais de Tillaberi Bentia, battant retraite vers Kikasugu dans une hâte qui se transforme en déroute. Il laisse plus de 800 chevaux, 400 chameaux, 1 millier d'ânes, poussant devant lui hors de ses troupeaux de population affamée, ne tolérant derrière lui que ruine et que désolation. Spectacle de légions en fuite, où la révolte gronde, où le désastre plane, où le meurtre est de règle pour tout homme tatoué. Non sur le front, tatouage saïf, mais sur les tempes. La guerre raciale déchaînée, Saïf reprenait, sanglant et sauvage, ses pillages vers le Yamé. Lassé de continuels massacres des villes des villages entiers aux cases fumantes, se jetait sous la protection française. Et la bénissait, tandis que Saïf, escorté de sa garde fidèle, se lançait sur les Tétenoubou et attaquait Doukamar, exaspéré par les événements. Devant les griots assemblés, Saïf jura de rapporter la tête des chefs blancs et se mit dès le lendemain en campagne. Les Gondaïtes, alertés, virent courir à eux deux émissaires de Saïf qui se présentent à Thomas. « Soumets-toi, Saïf, ou par Allah, ton pays sera ravagé, ton père et ta mère brûlés vifs et tes fils exécutés. » Aussitôt, Ali, chef gondaïte de Thomas, guerrier au passé splendide, 20 fois blessé au plus fort des combats contre les Mossi et dont les ancêtres avaient jadis renversé les Saïfs et les Dia, « Oulalé ! Sur ma tête et mon œil, dites à Saïf que s'il est le plus fort, il prendra mon pays. Mais je le défendrai jusqu'au sang du dernier de mes enfants, Wassalam ! J'ai d'ailleurs juré au flanc de Sessi de ne pas me rendre au Saïf impie. » Ainsi, le vieil empire, suivant sa tradition de lutte tribale, se déchira sur des centaines de kilomètres de massacres, de missions écrasées, égorgées, incendiées par l'empereur, qui fit mettre la tête des Blancs au bout de lances et de sagaies. « Il faut, » disait Saïf, « arrêter devant Thomas. Pousser vers les remparts 3 moutons blancs et 7 poulets blancs. Si ces bêtes fétiches entrent dans la place, vivants, cela, soldat, signifie le succès de l'assaut. Ce retour au paganisme fut d'un effet étonnamment puissant qui rallia tous les animistes de la région, affluant par dizaines de milliers et empoisonnant les eaux potables de maintes troupes françaises paralysées de ce fait. De son côté, Ali, voyant venir poulets et moutons, comprit que Saïf afflurait en force. Alors, brûlant un gigantesque feu de bois immédiatement rassemblé par 3 000 hommes, il entrecoupa les volutes de fumée des salves de 600 mousquets faisant feu par 3, puis 7 fois. Exorcisme. Les 3 moutons blancs et les 7 poulets blancs à la rencontre desquels venait la fumée, chassés en avant par le vent, battirent en retraite, en même temps que parvenait aux oreilles des partisans de Saïf le bruit des salves. Un sorcier, furieux de l'exorcisme, tira un coup de fusil sur Saïf, qui, se retournant à ce moment précis vers Thomas fumante, évita sans le savoir la décharge, sous la mitraille de laquelle explosa la cervelle du maître d'armes de l'empereur. Vengeur, un officier de Saïf lança ses javelots sur le sorcier qu'il blessa grièvement, tuant son cheval, transporté au front. Immédiatement, 17 000 guerriers fidèles se retirèrent, regagnant leur gîte, imités par centaines de presque tous les autres. Et cela dura 1 heure. Et Saïf leur criait « Donnez-moi une armée ! C'est tout ce que je demande. Une armée ! Tous les sujets de mon empire se sont levés contre moi cherchant refuge auprès de ces macaques à casque. Une armée et je renvoie ces macaques de blanc. » Mais l'histoire a de ces mystères faits du silence, de lâcheté, de lenteur, de tragédie, puis d'apaisement et de soudaine volte-face. Alors, comprenant que tout était perdu, Saïf, debout dans la brousse, à quelques milliers de pas de Thomas, dégainant soudain son sabre, lui fit décrire un sifflant quart de cercle avant de l'abattre sur sa propre gorge. Son fils s'y rua, recevant le fer froid de l'arme sur sa tête qui roula comme une gerbe à terre. Ce coup acheva, plus que tout autre, la lassitude de Saïf, qui capitula le lendemain même. L'Empire était pacifié, morcelé en plusieurs zones géographiques partagées par les Blancs. La négraille, sauvée de l'esclavage, accueillie, heureuse, l'homme blanc qui, souhaitait-elle, lui ferait oublier la cruauté de Saïf, aussi puissant que redoutablement organisé. Reconduit dans son palais de Tillaberi Bentia, l'empereur, cependant que son unique fils cadet était assis à sa droite, que les marabouts priaient et qu'à l'arrière-cour les griots chantaient ses louanges, imposa le silence et attendit. En ce 20 décembre 1900, le traité de paix qu'il devait signer. Entouré d'une cour brillante comme au temps de sa splendeur, revêtu des attributs impériaux, il était assis sur son trône, foulant à ses pieds des tapis de satin à fleurs d'or. Sur sa tunique courte, un grand bambou, dont les riches ciselures dégageaient son cou, où pendaient deux fétiches. Sur sa tête, un turban noir de jais entourant une chéchia rouge. Sur ses jambes, un pantalon sombre et plus bas, des bottes mauresques à semelles en cuir d'hippopotame. Au bout d'un moment, Saïf, levant les bras, ajusta sur son front un diadème d'or aux dentelures enchâssées de perles fines. Tout son entourage, fait de fidèles, les yeux noyés dans le noir des songes, en un abattement plus accentué qu'à l'ordinaire, était sobrement mais richement vêtu. Saïf, oublieux du salam, ne se leva pas à l'approche des membres de la mission, mais se contenta de leur indiquer des sièges. En arrière de l'empereur, deux maîtres d'armes, entièrement vêtus de rouge, dans une attitude de noblesse barbare, fichèrent leurs sagaies à terre et se tinrent immobiles, bras tendus, comme pour jurer. Leur main gauche empoigne une hache aiguisée et une masse d'argent, maintenue par du cuir de lion, un signe de la royauté. En bandoulière, deux mousquets luisants, les arnaches. Leur visage est masqué du poil fauve du roi des animaux. À droite et à gauche, les 27 femmes favorites de Saïf, toutes jeunes et fines, couvertes de soieries et de lourds brocarts. En arrière, 60 servantes, puis 40 domestiques, tous captifs et fils de captifs dévoués à Saïf. Derrière eux, les enfants assis à la turque sur des nattes. Tout autour, en demi-cercle, la garde royale de 600 guerriers portant des grelots aux bras et aux chevilles et un anneau de cuivre dans le trou de l'oreille droite. Saïf promena lentement son regard sur tout ce monde. Son âme se fit plus ténue qu'un fil et il signa gravement, impuissant, le traité. Gloire au seul vivant. 6 mois plus tard, Madoubo, son fils cadet, était l'invité des Flancesi. Saïf en accepta l'offre en ces termes. 1000 saluts. Que ces remerciements vous soient plus doux que le miel et le sucre. Qu'ils aillent à votre peuple vaillant, dont la venue ici réjouit nos yeux, dont la présence nous est agréable au cœur comme le fruit de l'arbre et en chasse le chagrin. Voilà l'homme. En l'affirmation d'une bonne foi et d'une amitié qui n'existait pas, Saïf confia son fils à la mission du retour en France. Le Seigneur, saint est son nom, voulut que cette arrivée en France et surtout à Paris fût un véritable événement. Les plus hautes personnalités reçurent la visite du jeune Madoubo. L'Élysée, l'Arc de Triomphe, l'animation des grands boulevards le surprirent et le 14 juillet 1901, à la revue de Longchamp, le fascina. La fanfare, la cérémonie de décoration des officiers entourée d'un état-major solennel, tout étincelant de broderies et de croix, le bouleversèrent. C'était comme un gouffre de lumière disait-il, un ciel renversé. Et la décharge de la cavalerie aux chevaux noirs et blancs enthousiasma à un tel point le fils de Saïf, tombant chaque jour dans le même étonnement tissé d'innocence, qu'il demanda à emporter un uniforme de cuirassier. La curiosité mêlée d'admiration que Paris témoigna au fils de Saïf a beaucoup rappelé, dit la chronique, la visite d'Anabia, fils du roi d'Assigny, à la cour de Louis XIV. Bossuet l'avait pris en affection dès son arrivée et le roi, qui lui avait servi de parrain pour son baptême, lui délivra un brevet d'officier. Puis, un matin, était parvenue la nouvelle de la mort du roi d'Assigny. Aniaba reçut alors une sorte de sacre du cardinal de Noailles à Notre-Dame et, au jour de son départ, Louis XIV lui dit « Prince Anabia, il n'y a donc plus de différence entre vous et moi que du noir au blanc. » Commentant ces paroles, le gouverneur général de la Vignette, il semble que la parole de Louis XIV au prince Anabia retentisse maintenant avec un accent d'actualité pour affirmer le sens même de l'évolution africaine. Quand Louis XIV disait à Anabia « Il n'y a donc plus de différence entre vous et moi que du noir au blanc », il marquait que tous deux étaient rois solidaires dans la royauté et qu'ils pouvaient être différents par la couleur tout en étant unis par l'identité de leur nature royale. Et maintenant, par extension, c'est de l'identité d'une nature royale qu'il s'agit entre l'Afrique et nous. De frénétiques applaudissements crépitèrent et Paris, en liesse, combla de cadeaux le fils de Saïf, devenu prétexte de la coopération qui revint chez son père prestigieux. Et le fils, de retour au Nakem, ne trouva pas son père oisif qui avait peuplé en un an son palais de 23 nouveau-nés conçus par 20 de ses 27 femmes. Conséquence inattendue de la dictature d'une dynastie jadis tyrannique, l'imagination du peuple fit au retour de Madoubo gloire et génie, ce qui était défaite, et aligna l'empereur déchu dans la cohorte de ses justes, dont la grandeur désaltère le cœur mourant de soif au terme de son agonie. La hilala, la hilala, ma madara, surulayo. Crépuscule des dieux? Oui. Et non. Plus d'un rêve semblait en train de se faner. Et il s'agissait, tout autant que de son tournant, de la convulsion d'une civilisation. Avant sa fin définitive? Avant une nouvelle naissance? Ou durant une sempiternelle agonie? Une larme pour la négraille? Seigneur, par pitié.
Merci beaucoup Yann Gaël pour cette lecture, Le devoir de violence. Comment ces mots de Yambo Wologem résonnent chez vous, Mohamed Mungersar? Je vous voyais réagir presque physiquement à cette lecture talentueuse. Voilà, qu'est-ce qu'ils vont chercher chez vous? Et peut-être nous dire à quel moment cet auteur, son texte, ses textes rentrent dans votre vie de lecteur et ensuite d'écrivain.
Oui, merci beaucoup Yann pour cette merveilleuse lecture. Je réagissais en effet physiquement parce que je replongeais dans ce texte et je replongeais dans toutes les raisons finalement qui font que j'ai aimé ce texte et qu'il m'a autant marqué. On voit tout de suite que c'est une sorte de On voit tout de suite le côté épique, la dimension épique apparaît tout de suite. Quelque chose qui... Une sorte de western, mais western vraiment terrible, hein, assez rude, avec des empoisonnements, des sorciers, des femmes qui accouchent en marchant. Enfin, il y a un truc assez cruel. En fait, c'est une geste cruel, le devoir de violence. C'est une chronique de la cruauté. Et de la cruauté telle qu'elle peut être présente un peu partout dans le monde. Si on considère que dans le monde, il y a toujours des gens qui ont le pouvoir et le cherchent et se battent pour lui et sont prêts pour lui à asservir, tuer, empoisonner d'autres hommes. Et je retrouve aussi cette langue si gourmande qui part dans l'emphase et qui soudain revient vers une capacité de description. On voit lorsqu'il décrit, mais des détails, hein, vraiment cette garde autour, les amulettes des guerriers, les amulettes du roi, les symboles royaux, les petites boucles d'oreilles, on voit tout cela. Mais c'est parce que Wologam a cette capacité aussi à faire voir. Il navigue entre les univers comme il navigue dans l'espace, entre les continents, les niveaux de langue aussi. Les langues, on en a entendu plusieurs, les registres, il y a tout cela qui... Et ça me fait réagir. Parce qu'en plus, il y a tout un... L'un de mes passages que je préférais, c'est qu'il a une langue très, comment dire, très souple, très élastique, qui va de mots très savants à des mots très... Et par exemple, dans le passage lu, il y a un moment où il parle, pendant cette sorte de marche terrible, il parle des théories, etc. La première fois que j'ai lu, c'est la première fois que j'ai appris, à l'époque je n'avais pas fait d'études, pas encore commencé, fait un peu de grec, que j'ai appris que le mot théorie, il l'employait là dans le sens de cortège. Vous voyez, c'est ça, Wologam, c'est une capacité comme ça. Donc, parce que quand vous lisez théorie dans le, je dis, mais pourquoi il y a théorie, il y a ce mot-là? Mais c'est parce que théorie signifie cortège. Et que dans le grec, c'est ce que ça signifie. La théoria, c'est ce qui accompagne. Et puis, et lui, il l'emploie vraiment dans son sens quasi étymologique avec cette... Enfin bon. Wologam, je le découvre quand je suis au lycée. Je pense que je suis en classe de première. Je découvre Wologam parce que j'ai un professeur avec qui j'avais des rapports privilégiés qui débordaient le cadre de la classe. Il habitait non loin de l'internat militaire où j'étais. Et le certain soir, j'allais passer la soirée, voilà, je restais avec lui. Et nous discutions. Nous avions vraiment des échanges littéraires, philosophiques. Et il m'apportait beaucoup, mais hors de la classe, sans nécessité d'avoir des devoirs à faire, etc. C'était vraiment une discussion. Et il me parlait tout le temps de Wologam. Il me disait, ce livre, il faut que tu le lises. Je lui dis, oui, je veux bien le lire, donne-le-moi. Mais il ne l'avait pas, il ne le trouvait pas, il était épuisé. Il n'arrivait pas à le retrouver dans ses affaires, donc il cherchait. Donc à chaque fois, il me disait, demain, je te le donne, demain, je le cherche. Il n'arrivait pas. Et puis un jour, il l'a trouvé, mais déchiqueté, complètement en morceaux, avec des feuilles qui volaient partout. Il me l'a donné, on me dit, débrouille-toi, ben voilà, c'est tout ce que j'ai pour toi. Donc je l'ai d'abord lu dans un état inachevé. Mais au fond, je m'en fichais parce que j'étais dans quelque chose, même en passant d'une page à une autre qui n'avait aucun rapport parce qu'il y avait deux pages qui manquaient. Voilà, on était dans le rythme de la langue, on était dans quelque chose de très puissant. Et voilà, dès cette époque-là, je sens que c'est un grand texte. Ensuite, je découvre son histoire, son destin, les accusations de plagiat, le Renaudot, les accusations de plagiat, la disparition ensuite, les quelques textes écrits sous pseudo entre les deux, un essai aussi qu'il publie, ensuite la disparition, le silence farouche, une sorte de conversion à une pratique de l'islam presque très très rigoriste, toute la légende, le mythe, mais tout ça je le découvre après. Entre-temps, j'arrive en France, je lis tout de même, j'arrive à trouver le livre et je le lis dans une version intégrale. Et là, tout ce dont j'avais eu l'intuition au lycée se précise. Et je sais que je suis en présence d'un grand écrivain. Et qui à chaque fois que je le lis, il me saisit. Ce n'est pas un livre facile. Parce qu'on peut en parler comme ça, parce que Yann Gaël a le talent, on peut avoir l'impression que... Mais ce n'est pas un livre facile, c'est un livre qui demande aussi beaucoup de son lecteur, qui demande qu'il soit là, qu'il... parce que Hologem est comme ça.
Et est-ce que vous vous sentez déjà plus jeune lecteur, parce que vous êtes toujours jeune à 32 ans, Mohamed, est-ce que vous sentez déjà la rupture ? On a parlé de rupture formelle, la rupture thématique, la polyphonie évidemment avec tous ces personnages et cette fresque, mais est-ce que vous sentez déjà et vous percevez la déconstruction qu'il propose dans la lecture historique africaine ? En 1968, on est dans une période de désenchantement, en fait, post-indépendance. Est-ce que tout ça, vous le saisissez ?
Oui, petit à petit, je le comprends. Je comprends pourquoi est-ce qu'il a tant gêné beaucoup de monde. Pourquoi, surtout du côté africain, il a gêné autant de monde. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été soutenu ? Voilà, il n'a pas été soutenu par Senghor, qui, à ce moment-là, la figure, la statue du commandeur des lettres africaines, c'est Senghor. En un sens, il l'est d'ailleurs toujours parce que c'est celui qu'on cite de façon presque évidente. Mais Senghor ne le soutient pas, Ampa Théba ne le soutient pas. Personne, finalement, parmi les grandes figures de la négritude, ne le soutient. Pour une raison toute simple, c'est que son livre est vraiment c'est quasiment un brûlot. Il est assez explosif dans sa lecture historique. Du continent africain. Il n'épargne personne dans sa charge. C'est-à-dire qu'évidemment, dans la question coloniale, il n'épargne ni la colonisation européenne, ni ce qui est déjà assez subversif, la colonisation arabe, qu'on a tendance à oublier souvent. Il la rappelle. Mais surtout, il rappelle qu'il y a eu des colonisations internes. Au continent avant l'introduction des colonisations extérieures. Et personne, évidemment, ne peut lui pardonner de dire des choses pareilles à un moment où on a besoin plutôt que l'image du continent africain soit plus revalorisée, qu'elle ne soit plus réduite à un ensemble d'images d'une forme de misère, etc. Donc lui, il rappelle, lui, il dit... Il y a eu ces colonisations, il faut les reconnaître. Mais que fait-on des horreurs commises dans la constitution des empires précoloniaux ? Et là, son propos devient difficile à admettre parce qu'il impose une lecture historique aussi interne. En tout cas, qui dans la prise en compte de la lecture historique interne, intègre la question... la violence. Et à ce moment-là, on comprend pourquoi est-ce qu'il a eu du mal à être reconnu. Et de façon très ironique, Senghor lui adresse un reproche que lui-même a beaucoup reçu. Senghor lui dit qu'il écrivait pour être approuvé des Blancs. Ce qui, lorsqu'on connaît la trajectoire et la biographie de Senghor, est assez drôle à lire dans cette... Mais voilà. Et puis, évidemment... La révolution la plus forte est d'abord formelle. En réalité, avant de lire Hologem, je ne lis rien de semblable dans toute la littérature dite africaine, c'est-à-dire celle que j'étudie à l'école, les grands classiques. Personne n'écrit comme ça. Personne n'écrit avec cette liberté-là. Il y a des livres magnifiques, vraiment très beaux, qui posent des questions. Cheikh Hamidou Kane, Chinua Achebe, Kamara Lai, tout cela est passé. Mais personne... n'arrive comme Hologem arrive, avec cette puissance-là, cette conscience de la langue, ce style si éblouissant, si fort, si imagé, si joueur aussi. Voilà, il a de l'humour, et cet humour, on ne le voit pas tout le temps, mais il joue de façon très, très, très belle, presque insolente, et tout cela en fait un novateur. Voilà.
Donc je vous renvoie à votre propre texte, hein, parce que il y a aussi ce jeu sur la langue, cet humour. On n'a pas parlé de la sensualité aussi, de son texte, de l'érotisme, qu'on retrouve aussi dans La plus secrète mémoire des hommes. Il y a différentes formes que vous nous proposez. On est dans le récit, il y a des lettres, il y a des articles, et toutes ces voix en fait, concourent à essayer de s'approcher de qu'est-ce qu'écrire, la question qu'on posait au début. Wologhem, il propose finalement, au lecteur africain, de se regarder lui-même à partir de lui-même. C'est peut-être ça l'émancipation, finalement, en fait, la vraie émancipation dans cette période. Ce refus d'une logique d'opposition entre noir et blanc, maître et esclave, colon et colonisé, est-ce que vous la faites vôtre aussi, Mohamed Bougarsa?
En tout cas, dans ce qu'il dit, il me semble, en tout cas, on ne peut pas faire l'économie de ce moment-là. C'est-à-dire du moment où, hors tout regard extérieur, on fait une sorte d'introspection sur ce qui s'est passé sur ce continent. Raconter l'histoire du continent africain n'est pas en faire une suite de faits un peu paradisiaques ou édéniques avant la colonisation. C'est à regarder le plus lucidement possible et dire aussi qu'évidemment, les colonisations extérieures ont détruit. L'esclavage a détruit. L'esclavage a détruit de façon absolument irréparable. Que la colonisation aussi a détruit de façon absolument irréparable. C'est le dire, mais c'est aussi pouvoir dire au même moment, pas pour excuser, évidemment, ou ôter le poids de la colonisation extérieure, pouvoir simplement dire sur ce continent, parce qu'il y a des hommes, il y a eu des horreurs entre les hommes au nom du pouvoir. Finalement, c'est assez banal, mais c'est qu'historiquement, pour un continent qui a été soumis à tant de prédations, c'est difficile à entendre. Et c'est pour ça que Wologhem n'a été vraiment soutenu par personne. Mais c'est une lecture, un travail historique qui me semble absolument nécessaire aujourd'hui. Et si on prend un certain nombre de grandes figures héroïques du continent africain, dans sa globalité, je veux dire, lorsqu'on regarde leur histoire, elle est toujours un peu plus ambiguë qu'il n'y paraît. C'est qu'on les héroïse souvent en opposition parce qu'ils ont résisté à une forme de colonisation. Quand on prend, par exemple, quelqu'un comme Samori Touré, quand on prend quelqu'un comme Chaka Zulu, le fameux Chaka Zulu, il faut lire ce qu'il fait. Quand le Sud-Africain Thomas Mofolo écrit Chaka, et qu'on lit ça, mais on voit que c'est un grand roi. Mais la grandeur, il faut mettre beaucoup de guillemets, la grandeur se fait sur le lit d'une puissance. Et la puissance est destructrice. La puissance, c'est celle des peuples qu'il ravage, que son armée ravage, des viols, des conquêtes. C'est qu'il impose aussi une forme de lucidité. Et ce n'est qu'à ce prix-là qu'on est dans un regard juste sur l'histoire du continent.
On a dit ce prix, donc prix Renaudot. D'ailleurs, je me permets une petite digression parce qu'à l'époque, on dit premier Renaudot noir, comme vous avez dû entendre aussi, premier Goncourt noir. Quand vous entendez ça, vous réagissez comment, si vous réagissez d'ailleurs?
Bah, je dis que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Je ne suis pas le premier Goncourt noir.
En l'occurrence, on en parlera ensuite.
Voilà. Il y a eu évidemment René Maran. Après, on dit premier Goncourt africain, subsaharien. Bon, là, on entre déjà dans des subtilités. Ça
de moins de 35 ans.
Ça, oui, là, l'âge, enfin voilà, on rentre dans des tout à fait. Tout...
On peut ouvrir des cases comme
voilà,
ça à l'infini.
Voilà, c'est tout à fait. C'est facile en fait de faire ça. Mais en fait, même dans l'histoire, on peut regarder. Bon, Chamoiseau l'a eu. Bon, il est peut-être pas africain, c'est vrai. Mais Marie Ndiaye, qu'est-ce qu'on fait de Marie Ndiaye? Elle a eu quand même. Est-ce qu'on la considère comme africaine ou non? C'est vrai que peut-être que son cas est beaucoup plus compliqué que cela, parce que non seulement bon, il y a le métissage, mais il y a aussi le fait qu'elle-même n'a jamais vraiment, en tout cas à l'époque, insisté sur cette part africaine-là. Elle a toujours veillé, et c'est tout à fait respectable, à ce qu'on la considéra d'abord comme une Française. Elle a revendiqué cette partie-là, ce qu'on peut entendre. Mais disons que voilà, c'est plus compliqué que cela. Et au fond, du fond, du fond, même si je suis le premier subsaharien, etc., on s'en fout. La vérité, c'est cela.
Juste un dernier. Sur ce prix, peut-être encore quelques mots. Donc, on lui a retiré pour des accusations de plagiat. Lui parle d'emprunt, lui parle d'hommage. Peut-être nous dire quelques mots là-dessus. Et est-ce qu'il y a une volonté pour vous de réhabiliter un peu sa mémoire, son talent, lui dédiant ce livre et en s'inspirant fortement de lui pour construire le personnage d'Eliman?
Oui, alors, Wologam, en réalité, en écrivant ce livre, je ne voulais pas lui rendre un hommage. Je ne cherchais même pas à le ramener dans la lumière. Il y a une dette que je lui dois. Je tente de la payer. Donc, c'est vraiment très personnel, au fond. Après, évidemment, le destin du livre fait qu'on redécouvre Wologam un peu plus. Mais ce n'est pas le premier travail qui tente de revenir sur la figure de Wologam. Depuis sa disparition, en tout cas ces 30-40 dernières années, il y a toujours eu régulièrement des gens qui revenaient sur sa figure. Parce qu'évidemment, il disparaît et on se dit une étoile pareille ne peut pas disparaître comme ça. Donc il y a eu des chercheurs dans l'université, dans l'édition. Il y a eu quelques rééditions, quelques tentatives. Vraiment de le maintenir à un niveau de visibilité minimal. Donc oui, il y a aussi toutes ces personnes-là qu'il ne faut pas oublier, qui l'ont maintenu. Et c'est vrai que là, la visibilité du Goncourt fait que, par la force des choses, il y a une machine comme ça, beaucoup plus puissante peut-être, qui le reporte immédiatement dans une lumière. Mais au départ, je ne cherchais pas à dire... vous savez, c'est comme... lorsqu'on est une sorte de petite secte autour d'un objet un peu confidentiel, l'attitude est toujours assez double. On a envie de garder pour nous ce petit secret, que ce ne soit pas accessible à tout le monde. Et puis en même temps, on a tout de même envie d'en faire profiter. C'est vraiment les deux. Et pour Wologam, il y a un peu de cela. Dire, bon, c'est un truc, c'est un peu de snobisme, si vous voulez. On le garde pour nous, c'est notre petit secret. Mais en même temps, si on peut accueillir d'autres membres dans cette confrérie-là, pourquoi pas? C'est même, en parenthèse, assez comparable à Bolaño. Il y a un peu quelque chose de cet ordre-là aussi. Et voilà. Mais au départ, il n'y avait pas de volonté de lui rendre un hommage parce que je trouvais que... voilà, il faut... En fait, s'il y a un hommage à lui rendre, c'est simplement de le lire, de le reprendre. Voilà, mais pas de volonté un peu hagiographique, si on veut. C'est pas tout à fait ça.
On pourrait dire encore beaucoup de choses avec vous et sur l'œuvre de Wologam, mais je voudrais qu'on parle d'un autre auteur qui figure aussi en bonne place dans votre bibliothèque, René Maran, dont vous l'avez rappelé, on a fêté le centenaire de son prix Goncourt l'année dernière. Donc un autre écho à votre distinction. On va entendre dans quelques minutes la préface de son roman primé Batoila. Il y a des points communs entre René Maran et Wologam, la figure de cet écrivain, une œuvre remarquable, remarquée, et ensuite l'opprobre et l'oubli. Pareil, comment René Maran peut-être est entré dans votre vie de lecteur et d'écrivain?
Alors, René Maran, c'était beaucoup plus simple parce qu'il est au programme en classe de seconde au Sénégal. Batoila est au programme. Et lorsqu'on commence à étudier la négritude, on commence souvent par René Maran, de façon très étrange d'ailleurs, parce que bon, les précurseurs de la négritude l'ont désigné comme une de leurs inspirations, alors que Maran lui-même a toujours été un peu... s'est toujours tenu à distance, en tout cas, de Senghor. Voilà, tout à fait. Et donc, je l'ai lu en classe de seconde, Batoila. Je dois avouer qu'à l'époque, le texte me laisse un peu froid. Bon, je vois que c'est important. Il a eu le prix Goncourt à l'époque. La préface est une charge contre la colonisation, mais une charge ambiguë. On y reviendra peut-être tout à l'heure. C'est une charge à double sens, on va dire. Mais je le découvre à cette époque-là. Et ensuite, je l'oublie parce que bon, le texte, je dois avouer, Batwala comme roman ne me marque pas tant que cela. Et ce n'est que beaucoup plus tard que je découvre ces autres romans qui me semblent beaucoup plus forts, beaucoup plus sensibles, beaucoup plus poétiques, beaucoup plus beaux, tout simplement. Et parmi ceux-ci, il y a un homme pareil aux autres, il y a Le cœur serré, il y a Le livre de la brousse. Autant de textes qui me semblent avoir une force littéraire supérieure à Batwala. Mais Maran lui-même partageait cet avis. Hein, il le disait que bon, le Goncourt, évidemment, lui offre une visibilité qui arrive dans le scandale, mais qui arrive aussi dans la gloire du prix. Mais il le paie aussi. Il paie ce prix parce que... on ne retient que le scandale, on ne retient que la préface, à peine lit-on le roman, et puis surtout, on oublie tout le reste de sa production. Il a une production extrêmement étendue, Maran, entre les articles de presse, les articles qu'il a écrits pour la radio, sa correspondance immense. Voilà. Mais on ne retient finalement que Batwala, et Maran a été un peu oublié aussi, mais fait partie de ces nombreuses... victimes, mais en tout cas nombreux auteurs qui ont eu du mal à se relever du Goncourt.
On ne vous le souhaite pas, évidemment.
Oui, bon,
mais très égoïstement.
Mais voilà, il fait partie de ces auteurs-là. Et puis je trouve que voilà, Un homme pareil aux autres, c'est vraiment son plus beau roman. Voilà.
Donc René Maran, il est né en Martinique en 1887 de parents guyanais. Et à l'époque de son roman, il est administrateur colonial dans ce qui est l'actuelle République centrafricaine. Donc il écrit aussi en observateur, d'où l'on parle, c'est aussi une question importante. Et donc c'est le lieu de l'action de ce roman qui raconte les exploits guerriers, pas que, de Batwala, donc un grand chef en pays banda. Et pointe dans son roman, mais de manière moins frontale que dans la préface, les dérives de la civilisation occidentale, la question du racisme et du colonialisme. Je vous propose donc d'écouter cette préface donc de Batwala avec la lecture de Yann Gaël.
Batwala. Henri de Régnier, Jacques Boulanger, tuteur de ce livre, je croirais manquer de cœur si, au seuil de la préface que voici, je ne reconnaissais pas tout ce que je dois à votre bienveillance et à vos conseils. Vous savez avec quelle ardeur je souhaite la réussite de ce roman. Il n'est à vrai dire qu'une succession d'eau-fortes. Mais j'ai mis 6 ans à le parfaire. J'ai mis 6 ans à y traduire ce que j'avais là-bas, entendu, à y décrire ce que j'avais vu. Au cours de ces 6 années, pas un moment je n'ai cédé à la tentation de dire mon mot. J'ai poussé la conscience objective jusqu'à y supprimer des réflexions qu'on pourrait m'attribuer. Les nègres de l'Afrique équatoriale sont en effet irréfléchis, dépourvus d'esprit critique. Ils n'ont jamais eu et n'auront jamais aucune espèce d'intelligence, du moins on le prétend. À tort sans doute, car si l'inintelligence caractérisait le nègre, il n'y aurait que fort peu d'Européens. Ce roman est donc tout objectif. Il ne tâche même pas à expliquer, il constate. Il ne s'indigne pas, il enregistre. Il ne pouvait en être autrement. Par les soirs de lune, allongé en ma chaise longue de ma véranda, j'écoutais les conversations de ces pauvres gens. Leurs plaisanteries prouvaient leur résignation. Ils souffraient et riaient de souffrir. Ah, monsieur Bruel, en une compilation savante, vous avez déclaré que la population de Lubangui-Chari s'élevait à 1 350 000 habitants. Mais que n'avez-vous dit plus tôt ? Que dans tel petit village de Louam, en 1918, on ne comptait que 1080 individus sur les 10 000 qu'on avait recensés 7 ans auparavant. Vous avez parlé de la richesse de cet immense pays. Que n'avez-vous dit que la famine y était maîtresse? Je comprends. Oui, qu'importe à Sirius que 10, 20 ou même 100 indigènes aient cherché en un jour d'innombrables détresses parmi le crottin des chevaux qui appartenant aux rapaces qui se prétendent leurs bienfaiteurs, les grains de maïs ou de mil non digérés dont ils devaient faire leur nourriture. Montesquieu a raison, qui décrivait en une page où, sous la plus froide ironie, vibre une indignation contenue. Ils sont noirs des pieds jusqu'à la tête. Ils ont le nez si écrasé qu'il est presque impossible de les plaindre. Après tout, s'ils crèvent de faim par milliers comme des mouches, c'est que l'on met en valeur leur pays. Ne disparaissent que ceux qui ne s'adaptent pas à la civilisation. Civilisation. Civilisation, orgueil des Européens et leur charnier d'innocents. Rabindranath Tagore, le poète hindou, un jour à Tokyo, a dit ce que tu étais. Tu bâtis ton royaume sur des cadavres. Quoi que tu veuilles, quoi que tu fasses, tu le meus dans le mensonge. À la vue, les larmes de sourdre et la douleur de crier. Tu es la force qui prime sur le droit. Tu n'as pas un flambeau, mais un incendie. Tout ce à quoi tu touches, tu le consumes. Honneur du pays qui m'a tout donné. Mes frères de France, écrivains de tous les partis, vous qui souvent disputez d'un rien et vous déchirez à plaisir et vous réconciliez tout à coup, chaque fois qu'il s'agit de combattre pour une idée juste et noble, je vous appelle au secours, car j'ai foi en votre générosité. Mon livre n'est pas de polémique. Il vient par hasard à son heure. La question nègre est actuelle. Qui a voulu qu'il en fût ainsi? Mais les Américains? Mais les campagnes des journaux d'Outre-Rhin? Mais Romulus Coucou de Paul Rebout, le visage de la brousse de Pierre Bonardi et l'isolement de ce pauvre Bernard Combette? Et n'est-ce pas vous, Ève, petite curieuse, qui, au début de cette année, alors que vous étiez encore quotidienne, avait enquêté afin de savoir si une blanche pouvait épouser un nègre? Depuis, Jean Fineau a publié dans La Revue des articles sur l'emploi des troupes noires. Depuis, le docteur Huot leur a consacré une étude au Mercure de France. Depuis, M. Maurice Bourgeois a dit dans Les Lettres leur martyr aux États-Unis. Enfin, au cours d'une interpellation à la Chambre, le ministre de la Guerre, M. André Lefebvre, ne craignit pas de déclarer que certains fonctionnaires français avaient cru pouvoir se conduire en Alsace-Lorraine reconquise comme s'ils étaient au Congo français. De telles paroles, prononcées en tel lieu, sont significatives. Elles prouvent à la fois que l'on sait ce qui se passe en ces terres lointaines et que jusqu'ici, on n'a pas essayé de remédier aux abus, aux malversations et aux atrocités qui y abondent. Aussi, les meilleurs colonisateurs qui ont été, les meilleurs colonisateurs ont-ils été non les coloniaux de profession, mais les troupiers européens dans la tranchée? C'est M. Biez Diagne qui l'affirme. Mes frères en esprit, écrivains de France, cela n'est que trop vrai. C'est pourquoi, d'ores et déjà, il vous appartient de signifier que vous ne voulez plus, sous aucun prétexte, que vos compatriotes établis là-bas déconsidèrent la nation dont vous êtes les mainteneurs. Que votre voix s'élève. Il faut que vous aidiez ceux qui disent les choses telles qu'elles sont, non pas telles qu'on voudrait qu'elles fussent. Et plus tard, lorsqu'on aura nettoyé les subures coloniales, je vous peindrai quelques-uns de ces types que j'ai déjà croqués, mais que je conserve, un temps encore en mes cahiers. Je vous dirai qu'en certaines régions, de malheureux nègres ont été obligés de vendre leurs femmes à un prix variant entre 25 à 75 francs pièce pour payer leur impôt de capitation. Je vous dirai... Mais, alors, je parlerai en mon nom, et non pas au nom d'un autre. Ce seront mes idées que j'exposerai, et non pas celles d'un autre. Et, d'avance, des Européens que je viserai, je les sais si lâches, que je suis sûr que pas un n'osera me donner le plus léger démenti. Car la large vie coloniale, si l'on pouvait savoir de quelle quotidienne bassesse elle est faite, on en parlerait moins, on en parlerait plus. Elle avilit peu à peu. Rares sont, même parmi les fonctionnaires, les coloniaux qui cultivent leur esprit. Ils n'ont pas la force de résister à l'ambiance. On s'habitue à l'alcool. Avant la guerre, nombreux étaient les Européens capables d'assécher à eux seuls plus de 15 litres de Pernod en l'espace de 30 jours. Depuis, hélas, j'en ai connu un qui a battu tous les records. 80 bouteilles de whisky de traite. Voilà ce qu'il a pu boire. En un mois. Ces excès et d'autres ignobles conduisent ceux qui excellent à la volerie la plus abjecte. Cette abjection ne peut qu'inquiéter de la part de ceux qui ont charge de représenter la France. Ce sont eux qui assument la responsabilité des maux dont souffrent à l'heure actuelle certaines parties du pays des Noirs. C'est que pour avancer en grade, il fallait qu'ils n'eussent pas d'histoire. Hantés de cette idée, ils ont abdiqué toute fierté. Ils ont hésité, temporisé, menti et délayé leurs mensonges. Ils n'ont pas voulu voir. Ils n'ont rien voulu entendre, ils n'ont pas eu le courage de parler. Et à leur anémie intellectuelle, l'asthénie morale s'ajoutant sans un remords, ils ont trompé leur pays. C'est à redresser tout ce que l'administration désigne sous l'euphémisme d'errement que je vous convie. La lutte sera serrée. Vous allez affronter des négriers. Il vous sera plus dur de lutter contre eux que contre des moulins. Votre tâche est belle. À l'œuvre donc, et sans plus attendre. La France le veut! Ce roman se déroule en Oubangui-Chari, l'une des quatre colonies relevant du gouvernement général de l'Afrique équatoriale française. Limité au sud par l'Ubangi, à l'est par la ligne de partage des eaux Congo-Nil, au nord et à l'ouest par celle du Congo et du Chari. Cette colonie, comme toutes les colonies du groupe, est partagée en 6 circonscriptions et en subdivisions. La circonscription est une unité administrative, une entité administrative. Elle correspond à un département. Les subdivisions en sont les sous-préfectures. La circonscription de la Kemo est l'une des plus importantes de l'Ubangi-Chari. Si l'on travaillait à ce fameux chemin de fer dont on parle toujours et qu'on ne commence jamais, peut-être que le poste de Fort Sibu, chef-lieu de cette circonscription, en deviendrait la capitale. La Kemo comprend 4 subdivisions, Fort de Possel, Fort Sibu, Dekoa et Grimari. Les indigènes, voire les Européens, ne les connaissent respectivement que sous les noms de Kemo, Krébédjé, Kombélé et Bamba. Le chef-lieu de la circonscription de Lakemo, Fort Sibu, dit Krébédjé, est situé à environ 190 km au nord de Bangui, ville capitale de l'Ubangi-Chari, où le chiffre des Européens n'a jamais dépassé 150 individus. La subdivision de Grimari, ou encore de la Bamba ou de la Kanja, du double nom de la rivière auprès de laquelle on a édifié le poste administratif, est à 120 km environ à l'est de Krébédjé. Cette région était très riche en caoutchouc et très peuplée. Des plantations de toutes sortes couvraient son étendue. Elle regorgeait de poules et de cabris. 7 ans ont suffi pour la ruiner de fond en comble. Les villages se sont disséminés. Les plantations ont disparu. Poules et cabris ont été anéantis. Quant aux indigènes, débilités par des travaux incessants, excessifs et non rétribués, on les a mis dans l'impossibilité de consacrer à leur semaille même le temps nécessaire. Ils ont vu la maladie s'installer chez eux, la famine les envahir et leur nombre diminuer. Ils descendaient pourtant d'une famille robuste et guerrière, âpre au mal, dure à la fatigue. Ni les radias senoucistes, ni de perpétuelles dissensions intestines n'avaient pu la détruire. Leur nom de famille garantissait leur vitalité. N'étaient-ils pas des Banda? Et Banda ne veut-il pas dire filet? Car c'est au filet qu'ils chassent, à la saison où les feux de brousse incendient tous les horizons. La civilisation est passée par là. Et Dakpa, Mbi, Maruka, Lambasi, Sabanga, Ngapu, toutes les tribus Banda ont été décimées. La subdivision de Grimari est fertile, giboyeuse et accidentée. Les bœufs sauvages et les phacochères y pullulent, ainsi que les pintades, les perdrix et les tourterelles. Des ruisseaux l'arrosent en tous sens. Les arbres y sont rabougris et clairsemés, à cela rien d'étonnant. La sylve équatoriale s'arrête à Bangui. On rencontre de beaux arbres colons des galeries forestières bordant les cours d'eau. Les rivières serpentent entre des hauteurs que les Banda, en leur langue, appellent Kaga. Les trois qui sont les plus rapprochés de Grimari sont le Kaga Kosegamba, le Kaga Gobo et le Kaga Biga. Le premier se dresse à 2 ou 3 kilomètres au sud-est du poste et borne alors dans cette direction la vallée de la Banda. Le Kobo et le Biga sont en Peingapu, à 20 kilomètres au nord-est. Voilà. Décrite en quelques lignes, la région où va se dérouler ce roman d'observation personnelle. Maintenant, ainsi que disait Verlaine à la toute fin des Terza Rima, liminaire de ses poèmes saturniens, maintenant, va, mon livre, où le hasard te mène. Dix-sept ans ont passé depuis que j'ai écrit cette préface. Elle m'a valu bien des injures. Je ne les regrette point. J'en dois d'avoir appris qu'il faut avoir un singulier courage pour dire simplement ce qui est. Paris ne pouvait pourtant ignorer que Batoila n'avait fait qu'effleurer une vérité qu'on n'a jamais tenu à connaître à fond. Et veut-on une preuve entre mille? Une mission d'inspection est arrivée au Tchad dans les premiers jours de janvier 1922, c'est-à-dire au moment où les polémiques que mon livre avait provoquées battaient leur plein. Elle aurait dû enquêter, c'était même son plus élémentaire devoir sur les faits que j'avais signalés. Le contraire se produisit. Ordre lui fut donné de porter ses recherches ailleurs. Cette excessive prudence ne mérite aucun commentaire. Je n'ai eu qu'en 1927 les satisfactions morales qu'on me devait. C'est cette année-là qu'André Gide a publié « Voyage au Congo ». Denise Morand faisait paraître « Tchad » peu après. Et les chambres étaient saisies des horreurs auxquelles donnait lieu la construction de la voie ferrée de Brazzaville-Océan. Il ne me reste de ce passé si proche que d'avoir fait mon devoir d'écrivain français et de n'avoir jamais voulu profiter de mon brusque renom pour devenir un patriote d'affaires. Paris. Le 23 novembre 1937.
On voudrait rester sur le... Voilà, le silence, l'espace après la lecture. Deux mots quand même, Mohamed Bounguersar, je vais voler 10 minutes. Pareil pour vous faire réagir à cette préface, à ces deux préfaces finalement, à ce deuxième regard sur cette préface, la manière dont elle a été reçue quelques années après, s'il vous plaît.
Alors, l'ambiguïté de la préface de Maron, je pense qu'on l'a entendue. L'ambiguïté tient au fait que, d'une part, la dénonciation de la colonisation est claire. Il associe la colonisation à la civilisation, tout simplement parce que la colonisation elle-même prenait pour prétexte la mission civilisatrice qu'on devait donc appliquer à ces peuples sans âme, entre guillemets, parce que c'était aussi le premier argument. Puisqu'ils sont sans âme, il faut les civiliser, et évidemment c'est la colonisation elle-même qui construit ce sans âme là. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film La Controverse de Valladolid. Que se passe-t-il à la fin de La Controverse? C'est assez terrible. Alors, parce qu'ils débattent toute la question dans La Controverse de Valladolid et de savoir si les Indiens ont une âme ou non. Bon. À la fin, ils finissent quand même par reconnaître, bon, ils ont une âme, mais heureusement, il reste les Noirs. Et voilà, mais voilà ce que ça veut dire. Voilà, eux, on peut encore continuer à dire qu'ils n'ont pas d'âme. Donc évidemment, ils n'ont pas d'âme, il faut les civiliser. Évidemment, donc voilà, donc colonisation. Et c'est pour ça qu'il dit civilisation, tu bâtis ton empire sur un tas de cadavres, etc. Donc c'est clair, la dénonciation est très claire. Mais, parce qu'il y a un mais, et on l'entend aussi, cela, Maron est lui-même dans une position ambiguë. Il est fonctionnaire colonial, c'est un écrivain français, il sert l'administration coloniale. Il constate, évidemment, et il dit une chose très importante. Il dit, et c'est une idée que Aimé Césaire reprend au début de son discours sur le colonialisme, il dit une chose très simple, qui est la colonisation est triste aussi parce qu'elle décivilise le colon. On a presque l'impression que ça l'attriste autant que le fait que ça tue, que ça détruise, que ça avilisse des peuples entiers. On entend aussi, c'est triste parce que ça nous décivilise. Ce qui est vrai. Mais la question à partir de là, et c'est là que l'ambiguïté commence, si la colonisation avait été faite par des gens eux-mêmes, c'est-à-dire par exemple si ce type qu'il décrit n'avait pas bu les 80 litres ou 80 bouteilles et qu'il se tenait parfaitement droit, tout à fait, est-ce que ça aurait été pardonnable? C'est ça la question. C'est pour ça que, évidemment, la préface est à la fois une condamnation radicale et à la fois il y a ce petit qui fait un peu dire mais pourquoi est-ce qu'il y a cette pourquoi parler de cela? Pourquoi dire oui, c'est triste parce que nos compatriotes fonctionnaires coloniaux ne se tiennent pas, ils sont sauvages sur le continent africain. Et voilà, donc c'est un peu ça qui est un peu qui fait que c'est une préface, mais qu'il faut relativiser. C'est qu'il est aussi, faut remettre la préface dans son contexte, évidemment, se dire qu'il est dans une position qui est extrêmement difficile, qui lui vaut la polémique, mais qu'il a tout de même dire déjà faire cette dénonciation là, ou simplement comme il dit, faire une eau forte, peindre, dire ce qu'on voit.
Il dit je constate, je ne m'indigne pas.
Voilà, voilà. Et déjà une manière d'être courageux. C'est pour ça que c'est une figure ambiguë, et c'est une ambiguïté qui le suivra toute sa vie, vraiment. C'est d'être à la fois le fonctionnaire colonial, d'être donc considéré comme un traître ici et là.
Tout en étant viscéralement attaché à la France.
Tout en étant, oui, bien sûr, ça, on le voit d'ailleurs. Hein, il parle de noms d'écrivains qui parfois ne disent plus rien à personne, mais qui sont aussi de son temps, et qui sont vraiment les écrivains officiels de la France. Il mentionne d'ailleurs Gide, bon, qui est le plus connu, Verlaine évidemment, mais il est proche de Gide, c'est un Gidien dans l'écriture. C'est un écrivain très très Troisième République, je l'ai dit souvent, ou Quatrième République, voilà, il est troisième République, on va dire. Il est né en 1887, et donc il a aussi cette éducation-là, des concours de latin, si on veut. Il est dans ce truc-là.
Et qu'est-ce que sa préface, à sa propre préface, une quinzaine d'années plus tard, apporte au premier texte?
Alors là, il a traversé la polémique, il a traversé, il y a eu tous les malentendus, il a évidemment eu le prix, mais avec tout ce qui accompagne le prix. Et je pense qu'il est beaucoup plus, non seulement beaucoup plus tranquille, même si c'est relatif, mais sa parole est beaucoup plus claire là. C'est qu'il c'est peut-être là qu'il comprend que son geste ne lui sera pas immédiatement pardonné en France, parce qu'en 1937, donc à un moment où il fait la préface de la préface, en tout cas la deuxième partie de la préface, on est encore sous un régime colonial. Il y a eu la Première Guerre mondiale et la colonisation là a marché à plein régime, puisque les tirailleurs sont venus se battre et mourir. Parce qu'il y a eu, il le mentionne aussi, Blaise Diagne, ce député, qui a été quasiment envoyé en Afrique occidentale française, le coup, pour convaincre les populations, les hommes, de venir se battre pour la France. Donc il a aussi cet arrière-plan-là. Je pense qu'il voit de plus en plus que, oui, il a eu raison dans la dénonciation. Il a eu raison dans la dénonciation. Et Mais on voit aussi qu'il est presque... Parce qu'à la même époque, dans sa correspondance, il ne cesse de se plaindre qu'on le ramène tout le temps à Batwala et qu'on le ramène tout le temps à cette préface-là. Donc c'est très étrange comme...
Dernière question, justement sur cette ambiguïté. Est-ce que l'ambiguïté est confortable? Est-ce que l'ambiguïté est une matière littéraire?
Oui, en réalité, je crois que... Je crois que l'ambiguïté est toujours intéressante, littérairement. Non pas au sens où on ne dirait pas les choses clairement.
C'est ça, on ne choisit pas, on est...
Voilà, mais disons que c'est un motif de trouble. Tout dépend de la manière dont on la met en scène. Mais quand un personnage est ambigu, un personnage est intéressant. En tout cas, dans la fiction, c'est toujours intéressant d'introduire toujours une forme d'ambiguïté, en sorte qu'on ne puisse pas décider de la nature morale d'un personnage. En tout cas, pas facilement. C'est en cela que l'ambiguïté est un principe romanesque intéressant, je trouve. Après, dans certains moments, selon la circonstance, il faut parler très clairement. C'est sûr. C'est sûr, selon le genre. Quand on écrit un essai, par exemple, je déconseille à tout le monde d'être ambigu. Dans le roman, c'est plus acceptable, je crois. Dans l'essai, ça me semble plus risqué de faire cela. Mais oui, c'est un motif très intéressant. Et je cite souvent cette phrase du cardinal de Ré: on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens.
Vous citez dans le roman? Est-ce qu'elle est citée dans le roman?
Non, ça, c'est une phrase que je cite comme ça.
Merci infiniment pour cette conversation.
Merci beaucoup,
Mohamed Bougarsa.
Merci à vous. Et merci à Yann Gaël, bien sûr.
Et Yann Gaël pour la lecture. Merci beaucoup pour votre attention, votre écoute à la fois intense mais très présente aussi. Merci encore d'être venues si nombreuses et nombreux pour ce moment. Merci beaucoup.
Et pardon, je me permets juste d'ajouter, de remercier aussi Sandrine et Toa Andegg parce que elle a su nous inviter et merci beaucoup. Merci.